Vous écoutez, on lit pour vous.
Survivre dans l'espace est plus compliqué que vous ne le pensez. Un texte de Kim Tingley, paru en avril 2024 dans l'actualité. Construire des hôtels sur la Lune et des colonies sur Mars sera difficile, mais réalisable. Y faire subsister des humains, ce sera un tout autre défi. En tant qu'incubateur de la vie, la Terre possède des atouts formidables, un fait qu'on a tendance à ne pas apprécier à sa juste valeur quand on est confortablement installé dans son cocon. Or, envoyer des sondes et des véhicules astromobiles sur la Lune et sur Mars ne nous suffit pas. Pour diverses raisons, goût de l'aventure, hantise de l'apocalypse, recherche de profit, nous insistons pour nous envoyer nous aussi hors de notre monde. Plusieurs entreprises privées ont annoncé leur intention de bâtir bientôt des hôtels dans l'espace. La NASA, elle, souhaite créer des quartiers lunaires à partir d'imprimantes 3D d'ici une vingtaine d'années. Et même s'il faudra sans doute plus de temps pour construire et peupler un avant-poste sur Mars, des préparatifs sont déjà en cours. 4 membres d'équipage de la NASA ont entamé à l'été 2023 un séjour de 378 jours dans un logement martien simulé au Centre spatial Lyndon B. Johnson de Houston. Devant les rendus de ces habitations douillettes, il est facile de perdre de vue à quel point l'espace est hostile aux terriens. Pour rappel, voici ce qui arriverait si vous vous retrouviez en orbite terrestre basse sur Mars ou sur la Lune sans combinaison spatiale. Vous vous évanouiriez après quelques secondes par manque d'oxygène, un état nommé hypoxie, et mourriez rapidement. Dans le bref intervalle, en l'absence de pression extérieure, tous les gaz de votre corps se dilateraient, y compris l'air encore présent dans vos poumons. La dépressurisation entraînerait également la formation de bulles dans vos fluides internes, pas parce qu'ils se réchaufferaient, mais parce qu'ils passeraient à l'état gazeux. La température, elle, ne devrait pas poser problème, même si les thermomètres en orbite terrestre basse affichent des valeurs allant de 65 degrés Celsius à 125 degrés Celsius selon qu'ils sont à l'ombre ou à la lumière. L'espace étant un quasi-vide, il y aurait très peu de masse pour conduire la chaleur vers vous ou loin de vous, alors vous ne risqueriez pas d'avoir chaud ou froid instantanément. Si l'hypoxie est une menace réelle en cas de fuite du vaisseau spatial ou de la demeure extraterrestre, elle est gérable, sauf si vous en êtes sorti tout nu, bien sûr. Mais deux autres défis majeurs se posent à nos corps vulnérables lorsque nous quittons notre planète et aucun n'a encore été entièrement résolu, même à l'intérieur. La gravité variable et les radiations. La gravité est déterminée par la masse des objets et la distance qui les sépare. La Terre est si grosse qu'il est impossible d'échapper à sa gravité pendant une longue durée. Par conséquent, on ne se rend pas compte de ce que serait la vie sans cette attraction omniprésente ou sous son influence réduite. Or, sur la Lune et sur Mars, qui sont plus petites, l'attraction gravitationnelle sera bien moindre, un sixième et un tiers respectivement de ce qu'elle est sur Terre. À l'inverse, l'exposition aux radiations s'intensifie avec l'altitude car il y a moins d'atmosphère au-dessus de soi pour les bloquer. La dose est beaucoup plus importante si l'on dépasse la bulle protectrice de l'ozone et de la magnétosphère de la Terre, le champ magnétique qui s'étend sur environ 64 000 km à son point de compression maximale. Les rayonnements solaires et galactiques qui s'abattent sur Mars seront potentiellement 700 fois plus forts que ceux qui traversent nos défenses magnétiques. Les voyageurs de l'espace, au-delà de l'orbite terrestre basse, seront aussi bombardés de noyaux atomiques de haute énergie provenant d'étoiles en explosion dans toute la galaxie, qui sont normalement déviés par la magnétosphère et n'atteignent pas la surface de notre planète. Ces particules sont si lourdes et se déplacent si vite qu'elles pénètrent les vaisseaux spatiaux, les combinaisons et la peau, heurtant d'autres particules au passage et endommageant les cellules environnantes d'une manière que les chercheurs commencent à peine à comprendre. Jusqu'à présent, l'essentiel de ce que l'on sait des effets de ces menaces sur le corps humain vient des astronautes qui sont allés en orbite terrestre basse, mais comme la sécurité est une préoccupation majeure, on en a envoyé peu là-haut et pour de courtes périodes. La durée moyenne d'une visite à la Station spatiale internationale, SSI, est de 6 mois, et moins de 300 personnes ont fait le voyage de 400 km à ce jour. Cette expérience dans la SSI nous a permis d'apprendre comment le corps réagit lorsque l'attraction gravitationnelle est considérablement réduite, mais toujours sous la protection de la magnétosphère. Seuls les 24 astronautes ayant participé au programme Apollo sont allés au-delà. La Lune est en orbite à une distance moyenne de plus de 383 000 km. Ces 2 douzaines d'astronautes ont passé à peine plus d'une semaine à la fois sans la protection de la magnétosphère, mais à leur mort, on a constaté qu'ils étaient décédés de maladies cardiovasculaires à un taux 4 à 5 fois supérieur à celui de leurs homologues restés en orbite terrestre basse ou n'étant jamais entrés en orbite. Ce qui indique que l'exposition aux radiations cosmiques a pu endommager leurs artères, veines et capillaires. On n'enverra pas de gens sur Mars ou s'installer sur la Lune tant qu'on ne sera pas raisonnablement sûr qu'ils survivront à leur arrivée et à leur séjour. Mais la science médicale spatiale nécessaire pour rendre cela réalisable est ralentie par la petite taille des échantillons non représentatifs de la population générale. Tous les astronautes d'Apollo étaient des hommes blancs nés entre 1928 et 1936. Avec le tourisme spatial, viendront des possibilités d'étudier les effets des radiations et de la faible gravité sur un groupe démographique beaucoup plus large que les super-humains minutieusement sélectionnés jusqu'ici pour quitter la planète, comme dit Dorit Donoviel, directrice de l'Institut de recherche translationnelle pour la santé spatiale au Baylor College of Medicine. Vieux, jeune, avec des problèmes de santé préexistants. On commence à rassembler une base de données de connaissances qui, dans l'avenir, sera essentielle même pour la NASA, dit-elle, parce que on doit connaître les cas marginaux pour vraiment comprendre ce qui se passe dans notre corps afin qu'il s'adapte à un environnement hostile. Les personnes en bonne santé nous apprennent peu de choses. C'est lorsque les gens tombent malades que l'on comprend comment ça survient et comment éviter que ça arrive. Les épidémiologistes se heurtent à la même situation sur Terre. Avant de pouvoir déterminer comment protéger une population, ils doivent attendre que suffisamment de personnes soient malades pour établir les causes. Un contrôle médical moins rigoureux permettra à un plus grand nombre de touristes de se rendre dans l'espace. Donc, le risque que quelqu'un s'y blesse ou y nécessite des soins urgents augmentera considérablement. Ce n'est pas pour rien que la médecine aérospatiale est l'une des 3 spécialités certifiées par le Conseil américain de médecine préventive. Les médecins rattachés à un vol donné sont généralement bloqués au sol. Alors, ils doivent optimiser la santé de leurs patients et prévenir les catastrophes potentielles avant le départ. Or, ils ne peuvent pas savoir quelles seront ces catastrophes avant qu'elles se produisent. Cela signifie que, comme pour toute expédition vers l'inconnu, à un certain moment, des âmes intrépides ou désespérées vont devoir décoller et voir ce qui se passe. Vous écoutez « Survivre dans l'espace est plus compliqué que vous ne le pensez », un texte de Kim Tingley, paru en avril 2024 dans l'Actualité. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques affirmaient que nous ne pourrions pas vivre hors de la gravité terrestre. Sans cette force encore mal comprise qui nous tire vers le bas, comment pourrions-nous avaler? Notre langue s'enfoncerait-elle dans notre gorge? Est-ce que nous nous étoufferions avec notre salive? Et si nous survivions à ces périls, la pression croissante dans notre crâne nous tuerait-elle au bout d'une semaine? Lorsque Youri Gagarin est revenu de son voyage de 108 minutes en orbite autour de la Terre en 1961, le premier voyage de l'humanité au-delà de la mésosphère, il a fait la preuve que notre musculature interne pouvait maintenir nos fonctions vitales dans des conditions d'apesanteur. Là-haut, il a mangé et bu sans problème. Techniquement, il n'avait pas échappé à l'attraction de la Terre. Être en orbite, c'est tomber en chute libre vers le sol sans jamais le toucher. Et il se trouvait dans une condition connue sous le nom de microgravité. Selon ses dires, c'était comme s'il était pendu horizontalement à des courroies, comme dans un état de suspension. Une situation familière à quiconque est déjà monté dans des montagnes russes ou a déjà sauté d'un plongeoir. Gagarin a affirmé s'y être habitué. « Il n'y a pas eu de mauvaise sensation », a-t-il ajouté. Soit Gagarin mentait, soit il avait l'estomac bien accroché. Au début, de nombreux voyageurs de l'espace vomissent, ou du moins ont le mal des transports, le syndrome d'adaptation spatiale, ou SAS, est le nom donné à ces nausées, maux de tête et vomissements, à l'extérieur de notre atmosphère. C'est comme lorsqu'on s'assoit à l'arrière de la voiture quand on est petit et qu'on lit la tête baissée, explique Jan Stepanek, directeur du programme de médecine aérospatiale à la clinique Mayo de Scottsdale en Arizona. Il s'agit d'un décalage entre ce que nos yeux voient et ce que l'oreille interne nous dit. Dans ce cas précis, la perception décalée résulte du fait que les organes et les poils du système vestibulaire flottent librement sans leurs signaux gravitationnels habituels. On finit par s'y faire. Les chercheurs n'ont appris la prévalence des symptômes du SAS que dans les années 1970, lorsqu'ils ont entendu les astronautes de la station Skylab en parler entre eux autour d'un micro laissé ouvert par mégarde. Les astronautes ne sont pas des sujets idéaux pour les études médicales car ils sont notoirement stoïques et réticents à révéler tout symptôme susceptible de les clouer au sol. Sur Terre, notre corps maintient la pression sanguine de manière à ce que suffisamment d'oxygène atteigne nos organes et que les déchets soient évacués. L'un des plus gros consommateurs d'oxygène, le cerveau, se situe au-dessus du cœur pendant la majeure partie du temps où l'on est éveillé. En microgravité, le sang n'est soudainement plus attiré vers les jambes, tout comme quand on s'allonge ou qu'on entre dans une piscine, mais de façon plus prononcée. Le sang s'accumule dans le haut du corps, ce qui déclenche des capteurs de pression dans le cœur et les vaisseaux carotidiens du cou, qui envoie alors des instructions hormonales pour uriner davantage et réduire la production de sang. C'est la raison pour laquelle vous ressentez souvent le besoin d'uriner peu après vous être couché ou avoir plongé dans l'eau. Sur notre planète, cela suffit généralement à diminuer la pression artérielle et à rééquilibrer le système. En microgravité, par contre, Le volume sanguin, au-dessus du cou, sera probablement encore trop élevé, du moins pendant un certain temps. Cela peut affecter les yeux et le nerf optique et causer parfois des problèmes de vision permanents chez les astronautes qui restent dans l'espace durant des mois, un trouble appelé syndrome neuro-oculaire lié aux vols spatiaux. Le liquide s'accumule également dans les tissus avoisinants, ce qui donne un visage bouffi et des sinus congestionnés. Comme dans le cas d'un vilain rhume, ce processus inhibe les terminaisons nerveuses dans les voies nasales, alors vous ne pouvez pas sentir ou goûter très bien. Le nez joue un rôle important dans le goût. Voilà pourquoi la cuisine de la Station spatiale internationale est souvent approvisionnée en wasabi et en sauce piquante. Ces déficits sensoriels peuvent toutefois s'avérer utiles à certains égards, car la SSI a tendance à sentir l'odeur corporelle ou les pets. Vous ne pouvez pas vous doucher, et la microgravité empêche les gaz digestifs d'émerger du mélange des sucs dans l'estomac et les intestins, ce qui fait qu'il est difficile d'éructer sans vomir. Comme les gaz doivent sortir d'une manière ou d'une autre, la fréquence et le volume métrique et sonore des flatulences augmentent. D'autres processus métaboliques sont également perturbés. L'urine adhère à la paroi de la vessie au lieu de s'accumuler à la base, où la pression croissante du liquide au-dessus de l'urètre nous avertit généralement quand l'organe est rempli aux deux tiers. Ainsi, la vessie peut atteindre sa capacité maximale avant qu'une envie pressante se fasse sentir, et la miction peut alors se produire soudainement et spontanément, selon A Review of Challenge and Opportunities. Plus les astronautes restent longtemps en microgravité, plus leur corps change. Comme les os et les muscles n'ont pas à supporter de poids, ils commencent à s'atrophier beaucoup plus rapidement que chez les terriens âgés. La densité osseuse des hanches et de la colonne vertébrale peut diminuer de 1% à 2% par mois dans l'espace, contre de 0,5% à 1% par an chez les terriens âgés. Le calcium qui s'échappe des os est expulsé dans l'urine, ce qui augmente le risque de calculs rénaux. La masse musculaire diminue également. Les astronautes doivent faire de l'exercice intense pendant plus de 2 heures par jour pour rester en forme. Lorsqu'ils s'entraînent, ils doivent constamment s'essuyer la peau avec une serviette pour éviter que la sueur atteigne leurs collègues ou l'équipement. Les disques entre les vertèbres s'écartent. Les astronautes grandissent, mais le bas du dos leur fait mal. Les capteurs corporels, qui sur Terre augmentent la tension artérielle quand on se relève pour ne pas qu'on s'évanouisse, deviennent paresseux avec l'inactivité. Cette dégénérescence, ainsi que la réduction de la masse musculaire, explique pourquoi les astronautes doivent être transportés hors de leur capsule à leur retour sur la Terre ferme après une longue mission. Vous écoutez « Survivre dans l'espace est plus compliqué que vous ne le pensez », un texte de Kim Tingley, paru en avril 2024 dans l'actualité. Le corps se recalibre pour revenir à la normale. Mais les séjours prolongés en apesanteur, le record, 437 jours, a été établi par l'astronaute russe Valery Polyakov en 1995, sont suivis de récupérations douloureuses. Après 340 jours dans l'espace, Scott Kelly, un vétéran de la NASA ayant participé auparavant à 3 missions plus courtes, a décrit la période suivant immédiatement son retour comme étant bien pire que celle des voyages précédents. Toutes mes articulations et tous mes muscles protestent contre la pression écrasante de la gravité, écrit-il dans ses mémoires « Endurance » paru en 2017. La légende veut que Polyakov soit sorti de sa capsule sans ennui, qu'il ait demandé une cigarette à un ami et qu'il se soit mis à fumer. Récupération signifie ici « se réhabituer à l'attraction terrestre ». Mais que se passerait-il si vous ne reveniez jamais et que vous restiez en orbite sur la Lune ou sur Mars pendant le reste de votre vie? Si vous faites tourner un seau d'eau autour de votre tête assez rapidement, l'eau ne se répandra pas. La plupart des initiatives pour reproduire la gravité reposent sur les mêmes principes physiques. Dans ces scénarios, les voyageurs de l'espace sont l'eau. La difficulté, c'est que la vitesse à laquelle vous les faites tourner doit être d'autant plus élevée à mesure qu'ils se rapprochent de l'axe. Autrement dit, on peut avoir soit un gigantesque vaisseau spatial qui tourne lentement, soit un petit vaisseau qui tourne rapidement. Jusqu'à présent, la conception d'un tel appareil et son envoi en orbite terrestre basse n'ont pas été une priorité majeure pour les agences gouvernementales. Il est beaucoup plus simple et moins coûteux de donner aux astronautes des outils pour gérer leur apesanteur. Mais ce n'est pas parce que la NASA n'a pas utilisé de vaisseau en rotation pour simuler la gravité que c'est impossible de le faire, affirme Rhonda Stevenson, directrice générale d'Above Space. Sa société prévoit, une fois qu'elle aura réuni les fonds nécessaires, mettre en orbite un petit hôtel de luxe d'ici 5 ans et rendre opérationnel un établissement plus grand d'ici 10 ans. Dans les présentations, ces hôtels ressemblent à des engrenages géants avec des chambres dans leurs rouages. Les gens ne se rendent pas compte à quel point nous sommes technologiquement avancés, dit-elle. Les priorités de Rhonda Stevenson, comme celles des autres organisateurs de voyages spatiaux, sont orientées vers le plaisir et le confort, et non vers l'abnégation et la science. Les astronautes ne se plaignent jamais, mais les clients, eux, laisse une note d'une étoile au moindre prétexte, ce qu'ils feront sans gêne lorsqu'ils débourseront des millions pour un séjour d'une fin de semaine. Il devra donc y avoir des commodités et des toilettes à chasse d'eau, un dispositif dont l'évolution a également été guidée par la gravité. Personne ne voudra aller là-haut pour se sentir seul et manger des pâtes d'algues et des grillons, explique Rhonda Stevenson. Ce n'est pas ce qu'on appellerait du bon temps. Un jour, ces vacanciers fortunés voudront aller quelque part au centre commercial, au mini-golf, et désireront une cuisine cosmopolite. Rhonda Stevenson et d'autres prédisent que des parcs commerciaux, des usines et des fermes seront construites dans l'espace pour répondre à la demande. Le secteur de l'hôtellerie n'est pas le seul à afficher de telles aspirations. La chimie et la recherche dans le domaine des médicaments pourraient prospérer dans l'espace. Les cristaux, comme ceux utilisés dans les produits pharmaceutiques, grossissent mieux et deviennent plus symétriques en microgravité. L'exploitation des métaux rares sur la Lune est aussi prévue. La production d'énergie solaire pourrait s'avérer florissante en l'absence de météo défavorable. Enfin, grâce à l'astrobotanique, qui permettra d'approvisionner en nourriture fraîche les colonies spatiales, on pourrait faire pousser des plantes destinées à la Terre. Lors d'une expérience, des plants de blé cultivés en microgravité ont eu une croissance supplémentaire de 10%. Un jour, que vous soyez dans l'espace pour travailler ou pour prendre des vacances, le réglage de la gravité pourrait faire partie de vos tâches quotidiennes, comme le réglage du thermostat. Vous pourriez passer votre journée de travail en microgravité avant de faire du jogging ou de vous reposer dans un endroit de 1G. Note de la rédaction, l'intensité du champ gravitationnel en newton par kilo. Peut-être que lorsque vous avancerez en âge et que vos articulations commenceront à vous faire souffrir, vous déménagerez dans des chambres à 0,75G où la gravité serait idéale pour redonner du ressort à votre démarche. Des résidences pour aînés, version spatiale. Même si la gravité ne s'avère pas aussi facile à maintenir que prévu. La pesanteur ne serait un inconvénient que pendant les quelques heures nécessaires pour se rendre en orbite terrestre basse ou les quelques jours de vol vers la Lune. En revanche, pour se rendre sur Mars ou en revenir, il faudra très probablement, du moins dans un premier temps, vivre en microgravité pendant plus d'un an. Cela soulève des questions d'ordre physique. Les astronautes seront-ils capables de tenir sur leurs jambes à leur arrivée sur Mars? S'ils peuvent se mettre debout, vont-ils s'évanouir? S'ils s'évanouissent, se casseront-ils un os? Et si un os se fracture, guérira-t-il comme il le ferait sur Terre? Les chercheurs en savent encore moins sur l'état neurologique des astronautes et ignorent à quel point la cognition est affectée par la pression que les fluides se déplaçant vers la tête exercent sur le cerveau. Peu d'astronautes de la NASA se portent volontaires pour se planter une aiguille dans le cerveau ou dans l'œil afin de mesurer la pression dans l'espace, explique Dorit Donoviel. C'est risqué. Et ils ont peur qu'on trouve des raisons médicales qui les empêcheraient de voler. Cette expérience est dans les cartons depuis des années. Vous écoutez « Survivre dans l'espace est plus compliqué que vous ne le pensez », un texte de Kim Tingley paru en avril 2024 dans l'actualité. Les chercheurs espère que les passagers des vols spatiaux commerciaux seront plus enclins à se porter volontaires pour des expériences comme l'implantation, dans les mois précédant le décollage, d'un nouveau type de capteur de pression à l'intérieur de leur crâne. Si le dispositif fonctionne comme prévu, il permettra de répondre à des questions qui se posent depuis longtemps sur les effets de la microgravité sur le cerveau. Il pourrait également fournir des informations susceptibles d'aider les parents et les médecins à traiter les bébés atteints d'hydrocéphalie, un trouble neurologique causé par une accumulation de liquide céphalorachidien dans les ventricules situés au plus profond du cerveau. La mission de Scott Kelly, à bord de la SSI, qui a duré près d'un an, avait pour but d'apprendre ce qui pourrait arriver aux astronautes lors d'un vol vers Mars. Elle a profité d'une occasion scientifique unique. Scott Kelly a un frère jumeau identique, Mark Kelly, astronaute à la retraite et aujourd'hui sénateur de l'Arizona. Pendant que Scott Kelly s'est rendu dans l'espace, une réplique génétique de lui, ou presque, est donc restée sur Terre. À son retour, les chercheurs ont comparé les deux hommes sur le plan moléculaire pour voir ce qui avait changé chez Scott, mais pas chez Mark. Bientôt, on pourrait peut-être réaliser ce type d'expérience en utilisant des cellules souches provenant du sang d'un astronaute pour cultiver des mini-organes qui pourront être exposés à des niveaux élevés de radiation ou de microgravité dans l'espace, ce qui devrait montrer comment les organes réels de l'astronaute réagiraient à une vie hors de notre monde. Dans l'avenir, chaque astronaute pourrait nous donner quelques millilitres de sang et nous pourrions créer un modèle pour chaque personne, explique Gordana Vunjak-Novakovic, professeure d'ingénierie biomédicale et de sciences médicales à l'Université Columbia. L'espace a semblé remodeler Scott Kelly de manière subtile, mais peut-être significative. L'astronaute a subi une légère détérioration de l'ADN qui serait due à l'exposition aux radiations. Les doses de radiation des astronautes sont suivies tout au long de leur vie. Si elles deviennent trop élevées, ils ne peuvent plus aller dans l'espace. Il a également subi des changements épigénétiques, c'est-à-dire des modifications de l'expression des gènes qui peuvent être héréditaires, une caractéristique qui aide les humains et d'autres créatures à préserver des adaptations utiles sans attendre que l'évolution fasse son travail brutal. Ces modifications qui ont pratiquement disparu après son retour sur Terre, ont donné aux scientifiques une idée des gènes qui pourraient être le plus touchés par des séjours prolongés dans l'espace. L'un des changements les plus surprenants observés par les chercheurs concerne son microbiome intestinal, c'est-à-dire la communauté de bactéries, de champignons et de virus qui vivent dans le tube digestif. Les autres bactéries étaient les mêmes, mais leurs proportions les unes par rapport aux autres avaient beaucoup changé. Probablement, en partie, parce que la nourriture consommée par Kelly était très différente. De tels réarrangements parmi les micro-organismes peuvent être préoccupants car ceux-ci sont impliqués dans la digestion, le métabolisme et l'immunité. Et des changements dans leur composition ont été associés à des troubles neurologiques et physiologiques. Une immunité réduite pourrait être particulièrement dangereuse dans l'espace, où la microgravité semble aussi provoquer l'épaississement des membranes cellulaires bactériennes et rendre les bactéries plus résistantes aux antibiotiques et plus susceptibles de causer des maladies graves. Il y aura, bien sûr, des surprises, dont certaines seront certainement très désagréables. Jan Stepanek, de la clinique Mayo, souligne que les scientifiques ont longtemps pensé qu'il était très peu probable que des caillots sanguins se forment en l'absence de gravité terrestre. Mais un caillot est apparu. En fait, dans une étude de 2019, des chercheurs faisant partie d'un groupe international ont rapporté que le flux sanguin dans les veines jugulaires de 6 des 11 membres d'équipage de la Station spatiale internationale qu'ils ont suivi avait, aux alentours du 50e jour dans l'espace, soit stagné, soit inversé sa direction, et l'un des 6 avait une thrombose potentiellement mortelle sans symptômes. Heureusement, les médecins avaient déjà approvisionné la SSI avec une réserve de 40 jours d'anticoagulants, entre autres médicaments, au cas où. Les experts en médecine spatiale ont l'art d'imaginer des scénarios catastrophes. Que se passe-t-il si quelqu'un souffre d'une appendicite? Donne en exemple Natasha Chog, médecin urgentiste et professeur de médecine aérospatiale à l'Université du Texas. Si on va sur Mars, c'est impossible de faire demi-tour. On envoie un chirurgien, et si c'est lui qui a l'appendicite? Elle et d'autres médecins de vol ont à l'esprit le cas d'un médecin soviétique, Leonid Rogozov, qui, en 1961, à l'âge de 27 ans, a dû pratiquer une appendicectomie sur lui-même, dans une base en Antarctique où il était installé avec une équipe de 11 autres personnes. Il l'a fait à tâtons, après avoir constaté que les images inversées d'un miroir lui nuisaient au lieu de l'aider. En 2 heures, il a retiré son organe infecté et s'est recousu. Un collègue bienveillant a pris des photos pour la postérité. La faculté de médecine de l'Université du Texas envoie fréquemment de futurs spécialistes en médecine aérospatiale s'exercer dans une station de recherche en Antarctique, un environnement où les médecins peuvent être amenés à appliquer des procédures qu'ils n'ont pas suivies depuis des années, avec des fournitures limitées. Ronak Shah, directeur de la médecine aérospatiale à la faculté, expose le problème de la manière suivante. Avez-vous les instruments et le personnel de soutien nécessaires pour mener à bien ces procédures? Puis, évoquant le médecin de la série Star Trek, il ajoute « Les gens imaginent souvent le bloc opératoire dont disposait le docteur McCoy. La mise en orbite de chaque charge utile peut coûter 22 000 $ américains ou plus par kilo. » Et tout ce qui est embarqué dans le vaisseau spatial doit gagner sa place au détriment d'autres choses. La SSI est équipée d'un défibrillateur et d'un échographe portable, mais pas d'un tomodensitomètre ni d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique, IRM. Une intervention chirurgicale majeure pourrait avoir pour conséquence de faire flotter l'intérieur du patient à l'extérieur de son corps. Dans l'espace, même les injections nécessitent une grande planification. Quand le vaccin contre la COVID-19 est devenu accessible, Natasha Chug, médecin des astronautes de la NASA dans la Station spatiale internationale, a dû décider s'il fallait l'inclure dans un vol de réapprovisionnement de routine. Elle a dû mettre dans la balance la protection des astronautes lorsqu'ils reviendraient sur Terre, eux dont l'immunité pourrait être compromise, ainsi que des considérations sur la manière d'introduire le liquide dans une seringue, sur les effets secondaires qui pourraient rendre les astronautes incapables de remplir leurs fonctions, sur le moyen de conserver le vaccin suffisamment froid et sur la façon de le doser sans en gaspiller. Un dilemme éthique au moment où il n'y avait pas assez de doses pour tous les habitants de la Terre. En fin de compte, Natasha Chug a décidé que l'injection attendrait leur retour. Vous écoutez « Survivre dans l'espace est plus compliqué que vous ne le pensez », un texte de Kim Tingley, paru en avril 2024 dans l'Actualité. C'est un truisme de l'espèce humaine. Dès que l'être humain se retrouve dans un environnement nouveau et stimulant, le sommet d'une montagne, par exemple, ou les toilettes d'un avion, il veut découvrir ce qui se passera s'il a une relation sexuelle. Il est donc naturel que, dès que les premiers milliardaires s'installeront dans les premiers hôtels de l'espace, ils songent à devenir les premiers membres du club des 400 km d'altitude. Cela soulève un problème. Il n'existe pas vraiment de règles couvrant le comportement des touristes en ce qui concerne l'expérimentation médicale dans l'espace. Si quelqu'un veut avoir des relations sexuelles ou un bébé dans l'espace, il n'y a pas de cadre pour fournir des lignes directrices, explique Dorid Donoviel. Nous devons veiller à ce que les vols spatiaux commerciaux soient l'occasion de faire de la bonne science. La dernière chose qu'on souhaite, c'est que cela devienne le Far West et que soient commis des gestes stupides qui pourraient blesser des personnes ou susciter une mauvaise presse et amener les gens à s'opposer au voyage dans l'espace. Cela nuirait à l'ensemble du secteur. Les voyageurs devront-ils donc choisir l'abstinence? Jusqu'à ce qu'une autorité officielle déclare que le sexe est sans danger dans l'espace? Est-il possible que ce seuil ait déjà été franchi? Moins de 700 personnes sont allées dans l'espace jusqu'à présent, et il est facile pour la plupart de trouver leur identité dans les publications scientifiques, ce qui peut les rendre réticentes à fournir des détails qui pourraient satisfaire les comportementalistes. Selon le Québécois Simon Dubé, chercheur postdoctoral à l'Institut Kinsey de l'Université de l'Indiana, nous savons très peu de choses sur l'intimité et la sexualité des astronautes. Mais nous connaissons certains éléments de base. Il y a de bonnes raisons de penser que l'érection et la lubrification ne sont pas entravées dans l'espace, affirme Simon Dubé. Et il semble que la microgravité n'entraîne pas d'effets secondaires supplémentaires pour les contraceptifs. Toutefois, la reproduction suscite des inquiétudes qui devront être prises en compte si notre espèce doit un jour s'installer de manière permanente ailleurs que sur la Terre. Pour l'essentiel, les scientifiques n'ont étudié les aspects de la procréation dans l'espace que chez des animaux, notamment les drosophiles, mouches à fruits, les grenouilles, les tritons, les geckos, les crustacés, les cailles, les rats, les souris et, chose intrigante, les béliers. Il est possible de produire et de cultiver des embryons sains dans l'espace, mais cela comporte des risques considérables. L'exposition aux radiations endommage l'ADN et peut provoquer l'infertilité et la stérilité chez les adultes, par exemple. Les embryons et les fœtus exposés semblent plus susceptibles de présenter des retards de croissance, des troubles cognitifs, des malformations congénitales et des taux élevés de mortalité néonatale. Simon Dubé s'inquiète surtout des effets psychologiques des rapports sexuels ou de leur absence dans l'espace. Ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est qu'on va essayer de mettre en œuvre toute la complexité de la sexualité dans un endroit très restreint, éloigné, isolé, avec un choix limité de partenaires, qui sont des personnes avec lesquelles vous travaillez et dont vous dépendez. Historiquement, dans des situations analogues, comme la formation de base des militaires, cela s'est avéré désastreux, surtout pour les femmes. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas de savoir si les gens peuvent faire l'amour ou se masturber dans la station spatiale, mais plutôt comment les choses vont se passer le lendemain matin. De quelle façon cela va changer la dynamique de l'équipage, dit Simon Dubé. Les potentiels effets néfastes sur la santé de la solitude et de l'isolement dans l'espace n'ont pas non plus été suffisamment étudiés, mais sans doute deviendront-ils plus importants au fur et à mesure que les missions se prolongeront. Être dans l'espace, c'est l'équivalent d'être confiné durant une pandémie, comme en 2020. Et plus on s'éloigne de la Terre, plus il y a de décalage entre le moment où l'on envoie un message et celui où il est reçu. Sur Mars, l'attente pourrait être de 20 minutes. En 2014, la NASA a publié un rapport intitulé « Examining Psychosocial Well-being and Performance in Isolated, Confined and Extreme Environments » examen du bien-être psychosocial et des performances dans des environnements isolés, confinés et extrêmes, dont les données proviennent de sous-marins, de bunkers et d'expéditions polaires. Il explique notamment comment la compétition professionnelle et les différences de personnalité, de valeurs, de culture et de langue ont fait dérailler en 1999, une simulation de la Station spatiale internationale de 105 jours, au cours de laquelle un équipage occupait des chambres hyperbares reliées entre elles. Une bagarre a éclaté entre deux membres de l'équipage. Un incident de harcèlement sexuel a été signalé et quelqu'un s'est retiré de l'étude en signe de protestation, écrivent les auteurs. Dans le contexte des vols spatiaux, où il est rarement possible de s'échapper ou de mettre fin à la mission, de tels événements mettront certainement en péril la santé psychosociale et les performances individuelles, de même que la réussite de la mission, prédisent-ils. Les équipes polaires semblent s'en être mieux sorties, les groupes de l'Antarctique, qui ont passé l'hiver sur place, appréciant de nombreux côtés de leur retrait de la société, notamment l'excitation liée à l'expérience de l'inconnu, le temps libre pour développer des compétences, faire de l'exercice et réfléchir, et la possibilité de s'éloigner des tracas quotidiens et des aspects négatifs de la vie sur Terre. La Terre nous manquera-t-elle si nous la quittons? Si nous désirons rentrer chez nous, le pourrons-nous? Il semble miraculeux que, sur des milliards d'années, les circonstances planétaires aient permis à des protozoaires d'évoluer jusqu'à devenir des êtres humains. Mais, en réalité, nous ne sommes qu'une série de capteurs élégants, dit Jennifer Fogarty, directrice scientifique de l'Institut de santé spatiale Baylor. Nos corps, obsédés par l'accumulation de l'énergie dont nous avons besoin pour rester en vie, se débarrasse impitoyablement de toutes les caractéristiques et capacités qui ne sont pas utilisées, pour ainsi dire, sans un regard en arrière. Vous écoutez « Survivre dans l'espace est plus compliqué que vous ne le pensez », un texte de Kim Tingley, paru en avril 2024 dans L'Actualité. Si nous allons jusqu'à la colonisation, s'interroge Jennifer Fogarty, les personnes qui auront eu une présence durable sur place fonctionneront-elles différemment et seront-elles moins compatibles avec la Terre? Ce ne serait pas nécessairement mauvais. Cela signifierait que ces personnes sont mieux adaptées à la Lune ou à Mars, mais l'adaptation est un jeu à somme nulle. Le problème, c'est que certaines de ces capacités se perdent au fil des générations, poursuit-elle. Devons-nous emporter la Terre avec nous? Créer une gravité artificielle? Si nous emportons la Terre, allons-nous bloquer l'évolution? Ou bien devons-nous laisser les gens commencer par une réponse adaptative et peut-être alors sera-t-il difficile, plusieurs générations plus tard, de revenir? En d'autres termes, sommes-nous fondamentalement des terriens, incapables de nous débarrasser complètement de la biologie que notre planète a conçue pour nous? Ou sommes-nous, pourrions-nous devenir, les extraterrestres dont nous rêvons depuis si longtemps? Il semble que, d'une manière ou d'une autre, nous soyons déterminés à le découvrir. La version originale de cet article est parue dans le New York Times. C'était « Survivre dans l'espace est plus compliqué que vous ne le pensez », un texte de Kim Tingley paru en avril 2024 dans « L'actualité ».
Forage en mer et évaluation environnementale. Un texte de Monique Posé, paru le 1er novembre 2023 dans L'Autre Journal. L'autrice est députée du Bloc québécois. Actuellement, aux communes, nous nous penchons sur le projet de loi suivant. Loi modifiant la loi de mise en œuvre de l'accord Atlantique-Canada, Terre-Neuve et Labrador, et la loi de mise en œuvre de l'accord Canada, Nouvelle-Écosse, sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois. Il vient modifier une entente qui date de 1987 concernant le régime administratif et la gestion de l'industrie énergétique en milieu marin dans l'Est du Canada. Cela vise principalement l'exploitation des hydrocarbures, un secteur d'activité que le Bloc québécois dénonce régulièrement, mais aussi de futures activités liées au secteur des énergies renouvelables, soit l'énergie éolienne extracôtière au large de la côte est du Canada. Les eaux extraterritoriales sont de compétence fédérale. Mais il y a eu un partage des responsabilités entre le fédéral et certaines provinces, dont les provinces maritimes. En 1987, on ne parlait pas encore de crise climatique et l'industrie éolienne, comme on la connaît maintenant, n'existait pas. Ce projet de loi peut donc paver la voie à une réelle action en matière d'énergie renouvelable pour la côte Est. Il y a du positif dans ce projet de loi. On parle de gérer conjointement des ressources énergétiques renouvelables en haute mer et de la possibilité d'annuler certains claims pétroliers dans le fond des mers. Urgence climatique et transparence. Aujourd'hui, nous sommes conscients de faire face à une crise climatique sans précédent. Aussi, s'il y a une chose que nous savons, mais que nous ignorions en 1987, ce sont les liens qui existent entre les changements climatiques et l'activité des pétrolières. Soulignons au passage que les compagnies pétrolières étaient au fait des conséquences de leurs activités sur l'environnement depuis 1986 dans le cas de Shell et depuis 1977 dans le cas d'Exxon, mais ces géants pétroliers ont fait fi des recommandations des scientifiques qui les avaient mis en garde contre les dangers du réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous payons pour leur insouciance. Le projet de loi C-49 maintient encore les mécanismes qui permettent l'exploration et l'exploitation qui mènent à des forages pétroliers. Le Bloc québécois estime que, dans la perspective de la transition énergétique, l'industrie de l'exploitation des énergies fossiles en mer devrait décroître rapidement. En conséquence, nous croyons qu'aucun des nouveaux projets d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures en milieu marin ne devrait être autorisé, quelles qu'en soient les conditions particulières. C'est le chemin qu'emprunte actuellement le Québec et dont les provinces maritimes pourraient s'inspirer. Un peu d'histoire. En avril 2019, le gouvernement Trudeau annonçait en grande pompe une interdiction totale de nouveaux travaux pétroliers et gaziers, d'exploitation minière, de déversement de déchets et ou de faire du chalutage de fond dans toutes les aires marines protégées au Canada. Lors d'un sommet international tenu à Montréal, il incitait également d'autres pays à en faire davantage pour protéger l'environnement. Ironiquement, et parce que les libéraux sont maîtres, quand vient le temps de jouer avec les mots, les refuges marins ne faisaient pas partie de cet engagement. Après s'être placé en grand défenseur de l'environnement, il était temps pour le gouvernement de donner suite à cet engagement. Pourtant, en 2020, le Canada a décidé de mettre en place un nouveau règlement qui allait exempter de futurs forages en mer d'une évaluation environnementale. La volonté du gouvernement est claire : accélérer les forages pétroliers en milieu marin. Soustraire cette activité à la loi canadienne sur l'évaluation environnementale n'avait aucun sens, d'autant plus que, de l'aveu même des individus concernés, ces évaluations étaient déficientes. En novembre de la même année, Office Canada Terre-Neuve et Labrador a accepté d'offrir à la pétrolière BP Canada un accès à 264 500 hectares d'océan en échange de son engagement à effectuer des travaux d'exploration d'une valeur de 27 millions de dollars. Dans un pays pétrolier, le pétrole et l'argent font bon ménage. Au diable le reste. Le gouvernement libéral favorisait et favorise toujours le développement de l'industrie pétrolière dans des refuges marins qu'il a lui-même créés. Au même moment, sur toutes les tribunes, le premier ministre Trudeau s'engageait avec grande émotion à réaffirmer l'engagement du Canada à protéger 25% des terres et des eaux d'ici 2025. Et à atteindre 30% d'ici 2030. Le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Stephen Guilbeault, avait déjà commencé à ramollir son discours en expliquant devant le comité, et je le cite, « Tous les projets de forage doivent respecter des normes environnementales élevées et que les règlements en place établissent des processus clairs pour les projets de forage en mer. » Misère. Les activités de forage en mer représentent une menace pour la vie marine. Les canons acoustiques utilisés pour explorer les fonds marins, les levées sismiques, interfèrent avec les activités de communication, d'orientation et de recherche de nourriture des rorquals bleus et des baleines noires, deux espèces classées en voie de disparition au Canada. Les éclairages dont sont munis les plateformes et installations pétrolifères sont néfastes pour les volatiles, causant des confusions sur les lieux de repos, des problèmes de repérage pour l'alimentation, et j'en passe. S'engager en faveur de la conservation des milieux marins et prétendre que c'est compatible avec le développement de l'industrie pétrolière extra-côtière, c'est de la pure folie. Le journal britannique The Guardian ne s'est pas gêné pour accuser le Canada d'hypocrisie climatique. Rappelons-le, s'il y a de l'exploration, c'est avec le but de faire de l'extraction et de l'exploitation, sinon à quoi bon? L'exemple de Baie du Nord. Donnons un exemple récent. Le gouvernement Trudeau a annoncé la mise en branle du projet Baie du Nord. Cette annonce a tétanisé plusieurs pays, ce qui a valu au Canada des propos peu élogieux sur la scène internationale. La société suédoise instigatrice du projet de Baie du Nord l'a laissé tomber. Une chance, car ce premier projet en eau profonde comportait de nombreux risques. À l'époque, nous avions appris qu'il faudrait entre 18 et 36 jours pour amener sur place le matériel nécessaire pour colmater une fuite éventuelle. On parle ici de milliers de litres de pétrole qui se seraient répandus dans l'océan Atlantique. Difficile de ne pas être cynique quand on sait que le ministre qui a consenti au projet de Baie du Nord est un ancien militant écologiste. Tout ce qu'on peut retenir de cette saga, ce sont les volte-face du gouvernement, les doubles discours, la terminologie employée afin de mettre les citoyens en confiance. Quel est le lien avec le projet de loi C-49? Le Canada, visage à deux faces, joue encore la carte du bon participant, alors qu'il faut bien admettre que la forte probabilité que les modifications prévues avec C-49 maintiennent l'octroi de permis et promeuvent les activités pétrolières en mer. D'ailleurs, quelques jours à peine après avoir déposé C-49, le gouvernement annonçait de nouveaux permis de forage afin de doubler la production pétrolière au large des côtes. Encore une fois, le gouvernement avait une occasion de montrer qu'il voulait sortir des énergies fossiles, et il l'a raté. Nous tenterons d'apporter des amendements à ce projet de loi, amendements en lien avec nos convictions. Toutefois, s'ils ne sont pas intégrés dans le projet de loi, nous finirons par voter contre. La stratégie du gouvernement Trudeau est d'enrober le poison dans une sympathique gâterie que tout le monde aime. Le Bloc québécois ne se laissera pas aveugler. C'était « Forage en mer et évaluation environnementale », un texte de Monique Posé, paru le 1er novembre 2023 dans L'Aude Journal.